Il y a un personnage qui est peu présent dans cette toponymie et cette odonymie extraordinairement catholique qu'on retrouve au Québec, et c'est étrange parce qu'il est partout, c'est Jésus lui-même. On a des Sacré-Cœurs, on a des Christ-Rois, il y a une municipalité du Lac-Saint-Jean qui s'appelle l'Ascension de Notre-Seigneur, mais ça demeure quand même marginal quand on compare ça à la présence sur nos cartes de la Bonne-Sainte-Anne, de Saint-Joseph, et tout particulièrement de la Sainte-Vierge avec tous les Saintes-Maries et les multiples Notre-Dame. Et qui plus est, ce qui est fort probablement le principal toponyme québécois qui rappelle Jésus, l'île Jésus, est en train de disparaître parce que Laval et l'île Jésus ne sont, depuis la fusion de toutes les municipalités de l'île en 1965, qu'une seule et même chose. On va remonter, si vous voulez bien, à cette période pré-une île, une ville, alors que l'île Jésus était constellée de paroisses, de villages, de villes et de municipalités de paroisses. Il reste du travail à faire pour comprendre le genre d'utilisation et d'occupation que les Premières Nations ont fait de l'île Jésus. On a trouvé un artefact qui pourrait dater de plus de 3000 ans, mais il semble bien qu'on a surtout trouvé des objets datant d'une période qu'on appelle le sylvicole moyen, de 2400 à 1000 ans avant aujourd'hui. Tout porte à croire que l'île a, à tout le moins, été fréquentée bien avant ça. Au 17e siècle, alors que les Français commencent à occuper l'archipel de Montréal, l'île va porter deux noms. Montmagny, en l'honneur du gouverneur de la Nouvelle-France, Charles Huot de Montmagny, et en 1636, l'endroit est concédé aux Jésuites, la compagnie de Jésus, si vous préférez, et prend le nom d'île de Jésus. C'est ce deuxième toponyme qui va s'imposer, le « de » en moins. Les Jésuites n'ont pas fait de grands efforts pour coloniser leur seigneurie qui passe de main en main. Elle sera notamment propriété du premier évêque de Québec, François de Laval. Donc, l'île aurait pu commencer à s'appeler Laval dès ce moment-là. Monseigneur de Laval la cède finalement au séminaire de Québec, qui en sera propriétaire jusqu'à l'abolition du régime seigneurial au Canada en 1854. L'état de guerre constant entre les Français et les Odenoshonis, qu'on appelait autrefois les Iroquois, au 17e siècle, va grandement limiter l'avancée de la colonisation dans la région de Montréal. En 1698, on dénombre à peine 13 habitants français sur l'île Jésus. Ce n'est qu'après la signature de la Grande Paix de Montréal de 1701 que la colonisation européenne du territoire ne débute réellement et qu'on va commencer à limiter de plus en plus l'accès aux Premières Nations. Dans les mois après la signature du traité, on crée la première paroisse de l'île Jésus, Saint-François de Sales, ancêtre de la ville, puis du quartier Saint-François dans la partie est du territoire. Saint-François de Sales est suivi par trois autres paroisses créées entre les années 1740 et les années 1770, soit Saint-Vincent-de-Paul, près de la rivière des Prairies, Sainte-Rose-de-Lima, dans le nord, au bord de la rivière des Mille-Îles, et Saint-Martin, qui est plutôt dans le centre-ouest. Ces quatre paroisses deviendront les quatre premières municipalités de l'île au milieu du 19e siècle. À l'état naturel, l'île Jésus est recouverte de forêts. On va procéder à l'abattage des arbres pour l'agriculture, mais aussi pour le commerce du bois. Il y aura beaucoup de flottage de bois, la drave si vous préférez, sur la rivière des Prairies. La population de l'île Jésus augmente tout au long du 18e siècle. On passe de 742 en 1739 à 4600 en 1790. C'est des chiffres qui ne sont pas mirobolants, mais on voit que la croissance est constante. 1836 verra la construction d'un premier pont reliant les îles Jésus et de Montréal, le pont La Chapelle, entre les secteurs actuels de Cartierville et Chomédé. Le pont existe toujours. Ce n'est pas le pont d'origine, il a été reconstruit deux fois et doublé dans les années 1970, c'est-à-dire qu'on avait un pont La Chapelle qui ne suffisait plus à la demande, on en a construit un deuxième directement à côté, et on a un pont qui va vers le nord et un autre vers le sud, mais on a un pont à ce même endroit depuis 1836. Le nom rappelle Pascal Percier, dit La Chapelle, un homme d'affaires qui opérait un traversier à l'endroit où il a fait construire le pont. Jusque-là, on dépendait des traversiers et des ponts de glace en hiver. L'arrivée de ponts permanents va notamment simplifier la vie des cultivateurs qui voulaient aller vendre leurs produits à Montréal. Les ponts auront une influence sur la manière dont l'île se peuple. Je vous donne un exemple, la municipalité de Pont-Viaud, créée en 1926. Depuis la fin du 19e siècle, on avait un regroupement de population de plus en plus grand dans le secteur du pont Viau, reliant l'île au quartier Hunsic, tout près de l'endroit où on a construit la station de métro Henri Bourassa. Autre grande infrastructure qui voit le jour sur l'île Jésus au 19e siècle, le gouvernement du Canada installe un pénitencier dans la municipalité de Saint-Vincent-de-Paul qui demeurera en opération jusqu'à la fin des années 1980. Le vieux Penn, comme on l'a tardivement surnommé, a été le théâtre d'importantes émeutes, dont une en 1962 où 9 des bâtiments du complexe ont été incendiés. On y a détenu notamment le meurtrier et voleur de banque français Jacques Messrine, qui s'en est évadé en 1972, et le fraudeur Charles Ponzi, l'homme des fraudes pyramidales que les anglophones ont baptisé en son honneur les Ponzi Schemes. On ne pense pas à Laval comme un lieu de villégiature, mais encore dans les premières décennies du 20e siècle, c'est une campagne pour beaucoup de Montréalais qui y ont des résidences secondaires. Sainte-Rose, le long de la rivière des Mille-Îles, en est un bon exemple. S'y était créé, à la fin du 19e siècle, le St. Rose Boating Club, un club nautique formé surtout de Montréalais, dont beaucoup vont s'acheter ou se faire construire des maisons d'été dans le secteur. St. Rose et ses nombreuses plages se trouvaient à un court voyage de train, puis d'automobile, de la métropole. En 1941, la municipalité comptait, j'arrondis, 1850 résidents permanents et 1500 résidents saisonniers. L'île Jésus servait de campagne aux Montréalais, mais elle est devenue une banlieue de Montréal plus tôt que ce qu'on aurait pu penser, quoique à un niveau bien moindre que par la suite. Le chemin de fer va permettre à des familles de Montréal de s'installer dans un secteur de Saint-Martin qu'on appelait Parc Laval, tout en continuant à travailler en ville. Le secteur devient la municipalité de Laval-des-Rapides en 1912, et dans les années 1920, on passe des publicités dans les journaux pour vanter tout ce qu'on avait à offrir, comme des trottoirs et l'électricité, il n'y a rien de trop beau, pour intéresser plus de Montréalais à faire l'aller-retour soir et matin. On écrit en grosses lettres dans la publicité « Le prix des loyers est modéré ». On peut aussi acheter à bon compte des terrains où se construire et de jolies résidences estivales. On accède à Laval-des-Rapides par le CPR, le chemin de fer du Canadien Pacifique, ou en tramway à partir de Montréal, de l'endroit où le tramway vous déposait, il ne vous restait qu'à traverser le pont de Bordeaux à pied, ça prenait, semble-t-il, une minute en marchant d'un bon pas, et vous étiez au cœur de Laval-des-Rapides. Il faudra toutefois attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que l'île s'urbanise et que sa population se mette à croître à un rythme vraiment accéléré. Et là, je pourrais vous donner une grosse pile de chiffres. Fabreville, qui voit sa population doubler entre 1961 et 1966. Auteuil, au cours de la même période de 5 ans, augmentation de 127%. Mais ce que j'ai remarqué en faisant ma recherche, c'est qu'il est un peu difficile de suivre l'évolution de toutes ces différentes municipalités qui seront regroupées en 1965 pour former Laval, surtout à cause de la nomenclature qui était utilisée à ce moment-là. Ce qui arrivait très souvent, c'est qu'il se créait de nouveaux noyaux villageois dans une municipalité, distincts du noyau d'origine formé autour de la première église de la paroisse. Les villageois et les ruraux avaient des intérêts divergents, on sentait qu'on n'était pas écouté par le conseil municipal et on demandait à former une nouvelle ville. Je vous donne l'exemple de ce qui est arrivé à Sainte-Rose. C'était une des municipalités originelles de l'île fondée au milieu du 18e siècle. Ce qui est le quartier Sainte-Rose aujourd'hui n'est qu'une petite partie du Sainte-Rose des premières années. Ça correspond, grosso modo, à la municipalité du village de Sainte-Rose, devenue une ville et qui était officiellement la cité de Sainte-Rose au moment de la fusion. Mais il ne faut pas confondre la municipalité du village de Sainte-Rose avec la municipalité de la paroisse de Sainte-Rose de Lima, qui devient la municipalité de la paroisse de Sainte-Rose-Est, avant de prendre le nom d'Auteuil en 1961. Et il ne faut pas non plus la confondre avec la municipalité de la partie ouest de Sainte-Rose. C'était le nom officiel de la municipalité à une certaine époque. Les gens de la place appelaient ça plus simplement Sainte-Rose-Ouest, on comprend pourquoi, qui est devenue Fabreville dans les années 1950. Il y a un peu de quoi y perdre son latin entre vous et moi, sans compter qu'à peine 4 ans avant la grande fusion municipale, il y a eu une petite fusion. Chomedey, qui comptait 25 % de la population totale de l'île, est né en 1961 de l'union de la cité de Saint-Martin, de la ville de Renault, qui s'est longtemps appelée la municipalité de la paroisse de Saint-Martin, et, celle-là je l'ai gardée pour le dessert, la municipalité de Labor à Plouffe. Vous voyez la belle ellipse que je suis en train de vous faire? J'ai commencé en parlant de toponymie, je vais terminer en vous parlant de toponymie, parce que selon moi, c'est le meilleur nom municipal qu'on a jamais eu au Québec. Je connais aucun autre cas d'une municipalité qui se soit appelée Labord, A-B-O-R-D, comme un abordage, d'autant que je sache que c'est un cas unique, et il semblerait que le secteur était propriété d'une famille Plouffe, P-L-O-U-F-F-E, quoique j'ai vu Labord à Plouffe, P-L-O-U-F, dans au moins un journal ancien, pour un endroit aux abords d'une rivière. Moi, je trouve ça presque poétique. Franchement, j'adore ce nom-là. Et je trouve ça très dommage que ça n'existe plus aujourd'hui.